On est heureux de vous accueillir. On est la famille de Dieu et donc on s'accueille les uns et les autres. Voilà, soyez les bienvenus et soyez à l'aise au milieu de nous. J'aimerais juste vous poser une question avant de rentrer dans le thème de la prédication. Est-ce qu'un chrétien est superstitieux ? Ou peut-être superstitieux, parce que l'être un peu superstitieux. Dans ce sens-là, c'est un peu péjoratif. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que, en fait, je voulais en parler à un moment donné, et puis ce matin, ça s'est passé comme ça, lors de la distribution de la Sainte-Seine. Vous avez remarqué que d'abord, il y a eu le vin qui est passé et le pain après. Ben, en fait, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que j'ai vu certains être un peu déstabilisés. Il n'y a aucun problème. Je vous promets, il ne va pas vous arriver, vous n'allez pas être foudroyé quand vous allez sortir de cet endroit. Pourquoi ? Parce que dans la parole, si vous lisez, là maintenant vous le savez, hein, après tous ces mois où on est ensemble, je vous rappelle régulièrement les petits détails de la parole de Dieu. Si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Jésus prit d'abord la coupe. Et si vous lisez dans l'évangile de Luc, il est dit que d'abord il prit le pain. Il n'y a aucun souci. Le plus important, c'est quoi ? C'est le cœur, en fait. C'est ça, hein, c'est de nous focaliser. Et tout ce que nous faisons, le Seigneur, il regarde au cœur. Hein, il regarde précisément ce que nous faisons. Et donc, c'est cela le plus important. Alors voilà, j'ai rebondi sur ça parce qu'en fait, j'ai vu que ça s'est passé comme ça ce matin. Mais il n'y a aucun souci, je vous rassure. Hein. Voilà, gloire au Seigneur. Maintenant, on va partager ensemble la parole de Dieu avec cette question. Alors quand on la pose, c'est toujours assez délicat. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, est-ce que vous vous souvenez du thème de la prédication ? Alors ceux qui n'étaient pas là, vous êtes excusés. Alors là, il y a une pression hein, d'un coup qui s'installe. Là, on fait appel, et on prie, Seigneur, que je me souvienne. Est-ce que je pourrais, quelque chose de mémotechnique pour que je puisse me souvenir de la prédication ? Non ? Ah, il y en a une qui a suivi, elle est là ! Alléluia. Non. En fait, c'est juste pour nous rappeler, nous souvenir de tout ça, la puissance de la différence. Et dans cette réflexion, je me disais, comment aller plus loin, hein ? Le Seigneur, on l'a vu dimanche dernier, il nous veut différents, pas d'assimilation avec ce monde, mais une certaine différence. On s'acclimate pas à ce monde, à la pensée de ce monde, mais nous sommes différents. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est venu nous changer, nous transformer. Alléluia. Et nous sommes en cours, hein, on l'a vu tout ça. Hein, nous sommes en cours de transformation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et donc, dans la continuité, j'aimerais partager avec vous sur, étant donné que le Seigneur nous veut différents, nous rappeler qu'il y a un appel à la fidélité. Et ça va ensemble finalement. En préparant ces moments, je me disais, la fidélité c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, on ne considère plus la fidélité comme la Bible la considère. Aujourd'hui, quand on parle de fidélité, c'est quelque chose de vague, de vaste. C'est quelque chose qui peut être changeant, qui peut être négociable, qui peut être temporaire. Mais Dieu nous rappelle que la fidélité est une vertu fondamentale. Un pilier de la vie chrétienne. Être fidèle. Alors, on va le développer. Hein. Et pour cela, on doit comprendre d'emblée ce qu'est la fidélité. On va lire quelques versets d'introduction qui se trouvent dans le livre du Deutéronome, chapitre 7 et le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et j'aime beaucoup parce que le Seigneur, il met un focus pour pas que, à un moment donné, le peuple puisse se prendre pour quelqu'un d'autre. Il lui rappelle les conditions. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses donc verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, et c'est là en fait, l'élément déclencheur. C'est que l'Éternel nous aime d'un amour merveilleux parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Ici, il nous est parlé de la fidélité de Dieu, que Dieu a toujours été fidèle envers son peuple. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Et le Seigneur l'a poursuivi, mais il l'a poursuivi avec des actions d'amour en disant « Mais je t'aime, reviens à moi ». Et on le retrouve un peu partout dans la parole, dans la Bible. Mais Dieu est fidèle. Et ici, pour resituer vraiment, pour pas que l'être humain ou le peuple, en l'occurrence ici, par rapport au passage qu'on a lu, c'est que ça ne monte pas à la tête, que l'orgueil ne s'empare pas d'eux. Il resitue finalement en disant, c'est pas parce que vous êtes, il y a quelque chose de bon finalement en vous. C'est parce qu'en fait je vous aime. Et c'est un peu l'histoire de chacun d'entre nous ce matin. Si nous sommes là, c'est parce que nous réalisons qu'on n'est pas les meilleurs, loin de là. Et je dirais même, ça c'est la petite parenthèse, et là je parle pour moi, que le Seigneur se plaît à venir chercher les pires. Alors ce qu'il y en a des pires. Finalement, on est tous dans le même lot parce qu'en fait, on a tous un problème commun. Et ce problème commun, c'est le péché qui est là, cette nature pécheresse. Et le Seigneur dit, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial chez toi, mais c'est simplement que je t'aime. Et cet amour, nous l'avons expérimenté. Si quelqu'un n'a pas expérimenté, quelqu'un dans ce lieu ce matin n'a jamais expérimenté l'amour de Dieu, je vous invite à rechercher cet amour. Parce que cet amour, il ne laisse pas indifférent. Il nous ébranle, il nous change, il nous transforme de l'intérieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Je le disais, c'est cette semaine, dans une réunion à Lézignan-Corbières, donc j'ai pu apporter la parole. J'ai dit que finalement, la bonne nouvelle, l'évangile, ce n'est pas une amélioration. C'est une transformation. J'espère que pour chacun d'entre nous, vous êtes transformés, qu'au niveau de la pensée, au niveau de la sainteté, vous êtes dans cette phase de progression et vous demandez au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à te ressembler de plus en plus. » C'est ça, là, en fait, la prière primordiale que l'on doit faire pour chacun d'entre nous. Et merci Seigneur parce qu'il le fait. Oui, Dieu est fidèle. Ça, c'est l'introduction. Et c'est, donc, cette vérité, cette vertu fondamentale, c'est un pilier pour chacun d'entre nous de nous rappeler que Dieu est fidèle. Et comme Dieu est fidèle, il attend de chacun d'entre nous de la fidélité. Comprendre la fidélité, c'est quoi ? La fidélité signifie, quand on va dans la définition du mot fidélité, donc on s'aperçoit que la fidélité signifie être sûr, être loyal, être digne de confiance, être ferme, être constant. Être inébranlable, garder la foi donnée à une personne ou à une cause, être attaché à Dieu sans fluctuation. C'est ça, là, finalement, la fidélité. Alors, quand on regarde la définition, il y a un appel au secours qui monte dans nos cœurs. Et le Seigneur, viens nous en aide parce qu'on a besoin de rentrer dans cette fidélité et de la comprendre. Fidélité et foi, c'est le même mot. C'est exactement pareil. Si on a la foi, on doit être fidèle. Donc ici, c'est la définition. On ne peut pas être fidèle sans croire. On ne peut pas croire sans être fidèle. Les deux vont de pair. En tout cas, une chose est certaine. C'est que Dieu, lui, est fidèle. On a lu de ce passage de Deutéronome, on s'est arrêté au Deutéronome 7 au verset 8 et on va aller au verset 9 où là c'est donc le Seigneur qui parle. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, c'est ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde. Il y a donc pour nous donner une certaine visibilité à chacun d'entre nous et nous encourager jusqu'où? Jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Ce verset nous parle de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, évidemment. Et donc, comme Dieu est fidèle, il est dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu. Cette appartenance, sommes ses enfants. Donc ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu qui est fidèle, il garde son alliance. Amen. Tout à l'heure, dans l'introduction du chant, j'ai juste repris ces quelques paroles. Oui, Dieu a fait alliance avec chacun d'entre nous. Moi, quand j'y repense, ça me bouleverse. De savoir que moi, un être aussi perfectible, que le Seigneur, à un moment donné, ait décidé de faire une alliance avec moi. Et vous savez, aujourd'hui, voilà, quand on fait une alliance, un contrat, en fait, on signe en bas d'une page. Mais en fait, c'est l'alliance, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vu à une certaine époque, c'est qu'on se faisait une entaille dans la chair et on mélangeait le sang. Et c'était ça, en fait, l'alliance. Alors, au niveau du symbolisme, par rapport à aujourd'hui, ça a une portée quand même, je trouve. Ça a une portée encore un peu plus profonde. Et de réaliser que Dieu a fait alliance avec nous, c'est quelque chose d'extraordinaire à réaliser. À vivre tous les jours. Vous savez qu'il y a un ennemi qui est là, qui va essayer de nous faire douter. Et vous avez vite remarqué que la première accusation qui va venir, c'est qu'on n'est jamais assez au niveau où Dieu nous attend. Vous avez remarqué, tu ne pries pas assez, tu ne lis pas assez la parole. Alors c'est sûr qu'il faut avoir cette soif, demander, voilà, et chacun d'entre nous prendre des résolutions pour faire davantage encore pour le Seigneur. Mais malgré tout ce qu'on peut faire ici-bas, ça ne sera jamais assez parce qu'il y a cette voix qui va venir pour nous dire que finalement, on est des êtres misérables, et on est digne d'être haïs. Alors ça, c'est juste, mais à un moment donné, parce qu'il y a eu une rencontre décisive qui a percuté nos vies. Cette rencontre, nous l'avons faite personnellement. Et cela, donc, je le disais, ça a bouleversé notre vie et ça nous a transformés. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie avec la joie dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des moments difficiles. D'ailleurs, vous êtes au courant. Si on vous promet voilà, un évangile à l'eau de rose, viens au Seigneur Jésus et ça va aller, c'est pas comme ça, vous êtes d'accord, hein? Voilà, ceux qui ont un peu plus d'expérience seront d'accord avec moi. La réalité, c'est que voilà, on est frappé voilà, des mêmes problèmes, les mêmes difficultés que les autres, mais il y a quand même une différence quand Jésus est proche de nous. Quand on a cette relation avec le Seigneur, il y a une foi, il y a une espérance qui est là. Donc, à un moment donné, on est comme abattu. Et puis, on répand notre cœur dans la présence du Seigneur. Le Seigneur vient avec des paroles, vient nous encourager. Alléluia. Et puis, on repart. Amen. Et ça nous bouleverse, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Oui, Dieu est fidèle. Et non seulement il est fidèle, mais il est revêtu de fidélité. Alléluia. C'est dans sa nature même que se trouve la fidélité. Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. On a lu tout à l'heure en introduction de ce culte d'adoration, hein, donc c'était Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas des regards inquiets. Je serai avec toi. Je te fortifie de ma droite triomphante. Ce qui sous-entend que nous sommes au bénéfice, finalement, de la victoire de Christ à la croix du calvaire. C'est ça, la droite, quand on parle de droite dans la parole, la droite nous parle d'autorité. Nous parle d'opposition, de position d'autorité, alléluia, et de puissance également. C'est ça la main droite. Juste comme ça, dans votre lecture personnelle, relevez à chaque fois qu'il y a la droite est mentionnée. Vous allez voir que chaque fois, c'est par rapport à la puissance, alléluia. Donc, Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. Le Seigneur nous a fait des promesses à chacun d'entre nous. La promesse fondamentale, afin que nous ne soyons pas ébranlés, c'est qu'il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, au vu des événements, voilà, les choses s'enclenchent, c'est une réalité. Alors, on ne dit pas ça pour inquiéter, pour faire peur, mais c'est la réalité des choses. Si on a la foi, on lit la parole de Dieu, le Seigneur nous dit de relever la tête, qu'il est avec nous, voilà, on est dans ce cheminement, mais le Seigneur nous fait des promesses d'être tous les jours avec nous. Alors ça, quand on est dans une phase de notre marche chrétienne où tout semble aller, il n'y aura aucune difficulté. Mais quand on est dans le feu de l'épreuve, quand nous sommes dans la difficulté, Alors, se rappeler des promesses, oui, et des fois, il peut y avoir même des réactions en disant, mais Seigneur, tu as dit que tu serais avec moi, et j'ai cette sensation que tu m'abandonnes. Le Seigneur n'abandonne personne. Hein. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. C'est une réalité, c'est juste une question de temps. Amen. Pendant que je dis ça, en fait, ça me fait penser un peu à l'histoire du prophète Daniel. Daniel, à un moment donné, lui, il va prier le Seigneur. Hein, et donc, il est dans un pays déporté. Et il va prier le Seigneur pour que le Seigneur le garde et puis qu'il y ait une certaine protection. Et puis, vous lirez dans le livre de Daniel qu'à un moment donné, il est dit, « Daniel, lorsque tu as prié, j'ai envoyé déjà des anges œuvrer pour la situation et pour ta demande. » Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que Daniel, et ça a duré 21 jours, pendant 21 jours, il n'a rien vu. Il a marché par la foi, il a tenu ferme. Et le Seigneur était en train de travailler pour sa cause. Alléluia. Et c'est ce que fait le Seigneur avec chacun d'entre nous. Hein. Si on a reçu des promesses, frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes là, gardez ces promesses en vos cœurs. Ne laissez pas le doute s'emparer de vous. Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Par contre, c'est ses promesses, pas les nôtres. Des fois, nous-mêmes, on se fait des promesses. On pense avoir entendu la promesse de Dieu, mais c'est la nôtre. Combien de fois ? Pasteur, je me suis mis à part devant le Seigneur, oui, et le Seigneur m'a dit. Et quand on nous explique ce que le Seigneur a dit, c'est complètement absurde. Alors, est-ce que Dieu est absurde ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est en fait, on pense, c'est pour ça qu'on a besoin, vraiment, d'avoir cette oreille exercée. Ce cœur en connexion avec le Seigneur pour savoir quand la parole, elle vient de Dieu et faire taire certaines paroles. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Donc, Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. Il ne change pas et il ne ment pas. Il ne change pas et il ne ment pas. Eh oui, hein, il ne change pas. Le Seigneur, d'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il dit qu'il n'y a chez lui aucun changement, aucune ombre de variation. Nous-mêmes, hein, alors évidemment, je faisais à un moment donné cette erreur jusqu'à réaliser finalement non. Quand je lisais la parole, dans ma compréhension des choses, pour moi, quand je lisais la parole, il y avait le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Puisqu'à ce que je réalise que finalement, Dieu ne change pas, il reste toujours le même. Ce qu'il a fait, il le fait et il va continuer de le faire. Alléluia. Amen. Alors, cette parole, elle est là pour encourager ce matin. Si quelqu'un a reçu une parole, une promesse pour ses enfants, pour un conjoint, pour un membre de sa famille, pour un voisin, pour voilà une parole claire de la part du Seigneur, saisissez cette parole. Tenez-la fermement. Amen. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre du prophète Habacuc, chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste et voilà, je regardais pour voir ce que le Seigneur allait me dire. À un moment donné, il pose des questions à Dieu. Et le Seigneur lui dit, voilà, la promesse, elle est là. Il dit, mais si la promesse, elle tarde, Dieu qui nous a créés, il sait comment on fonctionne. Parce que si elle tarde, on va commencer à douter. Automatiquement. Et il dit à Habacuc, si la promesse, elle tarde, écris-la. Écris-la. Grave-la dans le marbre. Pourquoi ? C'est quoi la raison principale ? C'est pour que dans les moments de doute, je puisse aller voir mon morceau de marbre et regarder la promesse et finalement la proclamer, dire « Seigneur, tu m'as donné cette parole, je veux la serrer dans mon cœur. » Et en attendant, je te loue pour la promesse accomplie. C'est ça aussi la foi. Je te loue parce que, Seigneur, je sais que ça va s'accomplir en ton temps, quand tu le voudras. Donc, le Seigneur ne change pas, il ne ment pas, il reste le même. Dieu est fidèle pour nous pardonner. Autant de fois que nous ayons besoin de pardon, autant de fois le Seigneur nous pardonne. Et il est fidèle et il vient pour nous pardonner. Qui peut dire si ce matin, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, j'ai une progression comme ça, constante, et puis je n'ai jamais chuté. Ah, si c'est le cas, venez ici, on vous prend en photo, et puis En fait, on le sait. On est soumis aux tentations, on est soumis à la chute, mais le Seigneur est là pour nous. Alléluia. Il est même dit qu'il ne se lasse pas, on va le lire un peu plus loin, il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Il restaure. Combien de vies restaurées ici? Moi, en tant que pasteur, je connais la plupart de vos témoignages. Et je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur, parce qu'en fait, tu as fait une œuvre de restauration, alors que la vie est commencée elle n'a même pas commencé, elle s'est acharnée, brisée, complètement brisée, des vies complètement brisées, à mille morceaux. Et puis le Seigneur a rebâti, petit à petit, alléluia. Ça, c'est l'œuvre de restauration qu'il fait dans chacune de nos vies. Le Seigneur est fidèle pour relever, il vient nous relever. Il est fidèle pour nous purifier. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un a pensé à ça, juste dans sa prière, dire « Seigneur, je te remercie parce que je suis parfait. » Et non. Hein. Et pourtant, vous l'êtes. Vous l'êtes. Dans la condition où on accepte Jésus-Christ dans notre vie, alléluia, il nous dit que la perfection donc invisible, la perfection de Christ, elle nous est attribuée. Ça, c'est le ministère de la justification qu'il fait et qu'il opère en chacun d'entre nous. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à me dire que je suis parfait. Mais par la foi, je le crois, je le proclame. Et Seigneur, oui, je suis parfait, mais pas de ma propre perfection, mais de ta perfection que tu partages avec moi, alléluia, que tu me donnes. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Et vous allez voir que souvent, quand on dit, oui, mais c'est comme ça, je suis pas parfait. C'est pour excuser nos faiblesses et nos manquements. Hein. Souvent, c'est dans ce sens-là. Je suis parfait en Christ. Et ça, c'est peut-être aussi un changement de vision et une victoire à proclamer pour nos vies personnelles. Alléluia, il nous purifie. Dieu est fidèle pour nous appeler. Est-ce que vous savez que vous êtes choisi de Dieu? Vous êtes le choix de Dieu. Ça sous-entend qu'à un moment donné, Dieu a dit, je te veux dans mon équipe. Alléluia, ça c'est beau. Hein? Eh oui, en fait c'est ça l'élection. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus. Il nous a prédestinés même. Avant que le monde soit créé. Alors, c'est dur pour nous. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est dur de me dire que avant que le monde soit créé, ben, le Seigneur a déjà pensé à moi et pensé à chacun d'entre nous. Et donc, ça c'est merveilleux. Il nous choisit, il nous équipe et il nous accompagne jour après jour. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu, finalement. Alors oui, Dieu est fidèle. Alors, quand on voit que Dieu est fidèle. La suite qui vient juste après, ce que Dieu demande maintenant de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons fidèles. C'est que nous soyons trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors ici, voilà, il faut préciser, c'est quoi dispensateur? Dispensateur, c'est intendant, c'est gestionnaire. Alors ce matin, peut-être quelqu'un vient de découvrir qu'il était intendant et qu'il était gestionnaire des choses de Dieu, en fait. C'est ça, hein? Et que chacun soit trouvé fidèle. Dieu ne demande pas le succès, mais il demande la fidélité. Alléluia. Aujourd'hui, on court après le succès. Et pourtant, il y a des versets qui nous parlent de succès. Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu médites jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès. Alors, ce que le Seigneur nous demande, voilà, Dieu ne demande pas le succès, mais il demande la fidélité. Il demande que nous marchions dans cette fidélité. Je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui ont donné leur vie il y a plusieurs années et qui sont toujours là, qui sont toujours dans l'Église, avec ce que l'Église a pu traverser comme difficulté. En fait, c'est le lot de chaque Église. Vous savez, on peut aller partout, c'est exactement pareil. L'ennemi, il agit toujours de la même façon. Là où il faut être vigilant, c'est quand une Église vit comme une sorte de réveil local. Quand les âmes viennent, c'est là où il faut structurer, c'est là où il faut être davantage vigilant, c'est parce que l'ennemi, ça ne lui plaît pas, et puis à un moment donné, il va y avoir de la discorde, et il faut faire vraiment attention, hein, combien d'églises divisées. Juste pour vous informer, hein, avant de venir ici, donc on était dans la région du Vaucluse, Carpentras, et à Carpentras, il y a à peu près 25-30 ans, je crois, du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, du dimanche matin au dimanche après-midi, dans l'église, ils étaient le matin 140. Division, ils se sont retrouvés 14 personnes dans l'église à la réunion de l'après-midi. Ils se sont regardés, ils ont pleuré. Les 14 qui sont restés. Alors, ensuite, les ministères successifs sont venus. D'abord, le mouvement a envoyé un évangéliste, donc voilà, un pasteur avec la fibre évangéliste, et puis il a évangélisé, et puis des âmes sont venues. Mais moi, je m'aperçois qu'avec le temps, je suis arrivé, donc moi, quelques années après tout cela, il y avait encore des traces. Les frères et sœurs d'un certain âge, il y avait encore cette marque. Alors moi, quand je suis arrivé, c'était le moment de passer, de tourner la page, voilà, et d'aller plus loin, hein, parce qu'on ne peut pas rester éternellement à s'apitoyer sur notre sort. Oui, mais c'est comme ça, et vivre avec cet esprit peut-être de faiblesse, oui, ou cette peur, cette crainte. Et puis le Seigneur, il continue à faire son œuvre actuellement. Mais tout ça pour dire que c'est le lot de chaque église finalement. Et on doit être vigilant. Ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est de nous trouver fidèles. J'ai parlé du bel âge, hein, des seniors. Ça s'adresse également aux jeunes. Dieu attend de chacun d'entre vous de vous trouver fidèles. Fidèles à quoi ? Fidèles à lui, dans sa présence, dans cette relation, fidèle à la communion fraternelle. Aujourd'hui, plus que jamais, hein, on le voit, je le constate en tant que pasteur. Il y a des personnes, aujourd'hui, il y a plus de sympathisants dans les églises que de gens qui veulent devenir membres et s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Sympathisants. Certains sont devenus des consommateurs d'église. Et ça, c'est un peu la mentalité que l'on retrouve aujourd'hui. Alors, évidemment, hein, qu'on vient ce matin, par exemple, vous êtes venu, la louange a été préparée, vous avez bénéficié, donc quelque part, on a consommé ce qui a été préparé. Mais oui, un temps pour consommer, mais un temps pour être actif aussi, pour se retrouver au service. Vous savez que le Seigneur nous attend, chacun d'entre nous tous, et cette parole, elle s'adresse à tous, à tous les âges. Jusqu'à son retour, il veut nous trouver en train de travailler. Mon frère et ma sœur, si tu n'es pas dans un service que le Seigneur te demande, lui, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors ça peut être incisif et tranchant, hein, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors chacun doit trouver sa place. Et je bénis Dieu parce que dans l'Église, chacun peut trouver sa place. Il y a même un chant qui le dit, hein. Quand il m'a sauvé, maintenant je sais où est ma place. Si vous savez pas où est votre place, venez, on discute, on en parle. Parce que des fois, on n'est pas objectif. On a besoin d'être accompagné. Alors, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, oui, c'est d'être fidèle. Être fidèle implique remplir nos engagements. Quand on fait cette belle confession lors de notre baptême, « Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. » En général, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on pèse ces paroles ? On connaît tous au moins une personne qui a fait une belle déclaration publique d'un engagement avec le Seigneur et puis aujourd'hui, ils sont loin de Dieu. Que Dieu fasse que nous puissions tenir nos engagements. Aujourd'hui, plus que jamais, la parole, elle a moins de poids. En tout cas, c'est ce que je constate. Je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Moi, j'ai été élevé dans une famille. Mes parents m'ont inculqué, voilà, cette valeur, parce que pour moi, c'est une valeur, en me disant, si tu donnes, si tu t'engages quelque part, quoi qu'il arrive, tu dois accomplir et tu dois tenir ta parole. Et c'est là, en fait, où on découvre. Vous savez qu'il y a un passage dans la Bible qui dit « Soyez des hommes ». C'est ça, en fait. Tenez vos engagements. Ne vous laissez pas ébranler, mais tenez ferme. Donc, être fidèle implique remplir nos engagements. Alors, le second point, je ne sais pas si je vous le dis, parce qu'en fait, ce n'est pas populaire. Être fidèle, bon, mais je le dis quand même, hein. Être fidèle, c'est accepter de souffrir pour Christ. Et là, on dit, non, voilà, pasteur, voilà, dites-moi des paroles que Dieu m'aime, qu'il a un plan pour moi, il veut se servir de moi, il va faire de moi un grand évangéliste. Mais là, de là à me dire d'accepter de souffrir pour Christ, ben oui, parce que la fidélité, elle coûte parfois. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Hein. Quand on veut être fidèle, aujourd'hui, plus que jamais, hein, quand par exemple, on décide de ne pas mentir. Dans le milieu professionnel aujourd'hui, il y a certaines situations, si on ne ment pas, on va avoir des problèmes. Combien de fois ça m'est arrivé, hein. Tu diras que... Je dis rien du tout. Moi. Je commence. Je dis non, je dis rien du tout. Je dis, moi, je ne mens pas. Quand j'ai dit ça un jour à quelqu'un, il me dit, mais comment ça ? Même pas un peu. Il disait, même pas un peu. J'ai dit, non. Alors après, je lui ai expliqué. J'ai dit, voilà, moi, je suis chrétien, voilà, évangélique. Et puis, voilà, moi, j'ai pour principe de ne pas mentir. Et je lui ai dit, tu peux être sûr que si je te dis quelque chose, c'est la vérité. Alors ça bouleverse. Ça. Certains disaient, bah, ah bon ? Ils me disaient, même pas un petit peu. Alors oui, la fidélité, ça coûte parfois. Être fidèle, c'est persévérer avec constance. Que Dieu nous aide à réaliser donc toutes ces choses. Quand on parle de fidélité, hein, donc c'est tellement important parce que la Bible nous dit d'être fidèle dans quoi ? Dans les petites choses. Souvent, nous-mêmes, hein, alors j'ai fait cette erreur. À un moment donné, on répond à l'appel de Dieu, puis voilà, un grand ministère donc d'évangéliste où on va se retrouver là devant des foules, on va prier au nom, on va prêcher au nom de Jésus, et puis les foules vont tomber à terre et vont être convaincues de péché, de justice et de jugement, et puis on s'aperçoit vite fait que ce n'est pas tout à fait ça. Ce que le Seigneur attend, c'est qu'on soit fidèle dans les petites choses, je rajoute, finalement, de tous les jours. Être fidèle. Dieu observe notre fidélité dans les détails afin de nous confier des plus grandes. Aujourd'hui, certains veulent les choses les plus grandes, mais ne veulent pas commencer par les petites que personne ne voit. Il y a des exemples, il y en a plein dans la Bible. Il a fallu que je fasse un choix des plus populaires de ce que l'on connaît. L'exemple de témoins qui ont été fidèles et pourtant dans des contextes difficiles. Il y a Noé. Noé, si quelqu'un était dans un contexte difficile, bah c'est bien lui. Alors on lit quelques versets. Genèse, chapitre 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, je vous disais, hein, évidemment, que si on cherche quelqu'un dans une sphère donc difficile, ben c'était bien lui. Hein. On s'aperçoit qu'il était dans un siècle de débordement. il était dans un siècle impie. C'est-à-dire, impie, c'est le mépris des choses de Dieu. C'est ça. Dites-moi, quelle différence il y a entre l'époque de Noé et la nôtre ? Il y a une parole dans le Nouveau Testament qui dit, mais ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera également. C'est pareil, l'histoire elle suit finalement son cours. Et pourtant, il est resté intègre. On l'a lu hein, ensemble. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Encore une fois, pas parce qu'il était le meilleur, c'est parce qu'en fait, il avait eu cette révélation, il l'avait gardée lui seul. Il avait ensuite inculqué aux membres de sa famille. Rendez-vous compte, il devait y avoir pas mal de personnes, déjà à cette époque-là. Pourtant, combien de sauvés ? Pas beaucoup, hein ? 8. C'est pas faute, pendant plus de 120 ans, de prêcher la justice. Donc, Noé, c'était le prédicateur de la justice, nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Puis l'homme, le cœur endurci, voulant faire finalement qu'à sa tête. Mais le Seigneur lançait cet appel. Donc, Noé, lui, il a été trouvé fidèle dans un siècle de débordement. Il est resté intègre malgré la corruption générale. Il y a un autre verset, une autre situation également, exemple, c'est Joseph. Il a été fidèle dans la tentation. Aujourd'hui, combien de tentations ? Je parle parce qu'on est soumis tous aux mêmes tentations. Hein. On est formés de la même manière. Mais peut-être aujourd'hui, par rapport à une certaine période, un peu plus qu'à une certaine époque. Hein. Aujourd'hui, tout est à portée d'un clic avec le téléphone. Alors que ça sous-entend que le téléphone, c'est du diable. C'est en fait, c'est d'avoir cet équilibre, c'est ça. Hein. C'est bon pour toute chose, finalement. Ça dépend comment on l'utilise. Que Dieu nous garde, vraiment. Regardez, Joseph, lui, il a été fidèle. Fidèle malgré la tentation. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Donc quelqu'un qui est là et qui est réaliste. Et le verset suivant, verset 10, non, on est passé au suivant, c'est pas grave. Donc on voit ici que Joseph, il est trouvé dans la fidélité. Il faut savoir que c'était un homme dans la force de l'âge. Vous savez ce que cela veut dire. La tentation qui est là, il a l'opportunité, personne ne peut le voir, mais il reste intègre. Il garde sa fidélité et il refuse. Vous avez vu de suite la réaction. Il dit, mais je ne peux pas, avec finalement tous les privilèges que j'ai, et puis non seulement les privilèges, mais également, pécherai-je contre l'Éternel ? Quelle belle réaction hein, face à la tentation. Et nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre, chacun dans notre faiblesse, dans ce qui pourrait nous attirer. Mais on voit que c'est possible de résister à la tentation. Alléluia, il est resté fidèle. Quand on parle de fidélité dans les petites choses, il y a quelque chose que j'ai noté, j'ai dit, mais son exemple, il faut vraiment que je puisse la mettre, parce que si on pense à quelqu'un de foi, de grande foi, quelqu'un qui a été un exemple, quelqu'un qui a été un témoin fidèle, si j'avais posé la question, est-ce que vous pensez, voilà, à toutes ces caractéristiques que j'ai pu vous dire, est-ce que vous connaissez certaines personnes comme ça dans la Bible ? Alors c'est sûr, on aurait énuméré certains hommes, certaines femmes de Dieu. On aurait sûrement oublié la petite servante de Naaman. C'est sûr, hein, moi pareil, je l'aurais sûrement oublié. Regardez son histoire. C'est 1 Samuel, donc 19. Non, 2 Rois, pardon. Voilà. Bon, j'avais mis cet exemple aussi de David, fidèle dans la persécution. Il a été persécuté. Mais en, voilà, 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Un gros problème. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à son maître, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va et rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Comme je disais, la fidélité, et pourtant, elle était dans un pays jeune, elle a été déracinée dans un pays et elle sert, elle est dans l'esclavage. Et donc, elle est esclave au service de quelqu'un d'autre. Et puis, quand l'opportunité se présente, elle parle du Seigneur qui a la capacité de guérir donc son maître. C'est extraordinaire. Je remarque également qu'on n'a pas son nom. Ce qui sous-entend que Dieu tient compte de chacun d'entre nous. Lui nous connaît. Même si la majorité, même si on n'est pas populaire dans le milieu évangélique ou dans les assemblées de Dieu, mais le Seigneur, lui, nous connaît par notre nom. Alléluia. Et évidemment, je préfère être connu de Dieu que connu des hommes. Hein. Évidemment. Alors, on voit ici, au travers de cet exemple qui est merveilleux, donc cette petite servante qui a témoigné malgré sa situation, elle témoigne malgré sa condition. Pourquoi ? Tous ces exemples que j'ai pu prendre, en fait, nous montrent que c'était pour garder la fidélité. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il soit résolu. Et quand on est résolu, c'est le prochain verset, Job chapitre 22, verset 28, vous connaissez bien également. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Vous voyez, quand on est résolu, alors, le succès nous est assuré. Tout à l'heure, je vous ai parlé de promesses de Dieu, que Dieu, quand il donne ses promesses, il va les accomplir hein, automatiquement. Si on est résolu, aujourd'hui, on manque de résolution, hein, d'hommes et de femmes résolus, fermes, en disant, mais, quoi qu'il arrive, je veux poursuivre, je veux aller de l'avant. À tes résolutions répondra le succès. Alors, soyons des serviteurs fidèles et avisés. Parce que on a parlé ici de fidélité. La fidélité, elle se reconnaît. Une foi vécue avec persévérance, ça se voit. Quelqu'un qui a la foi dans son langage, dans son discours. Combien de fois j'ai pu discuter avec des personnes, avec des frères et sœurs. Hein, et je les suis après. Discuter avec eux, un sourire, une joie. Il ne laissait rien transparaître, comme s'il n'y avait pas de problème. Et puis plus tard, quelqu'un, par un autre moyen, j'ai appris que le frère et la sœur traversaient des moments difficiles. L'épreuve terrible s'abattait sur ces personnes-là, ces frères et sœurs-là. Et pourtant, ils ont continué à persévérer, alléluia, avec un large sourire. Que le Seigneur nous aide à avoir cette vision de la fidélité. Alors oui, la fidélité, elle se reconnaît. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes fidèles dans cette Église. La fidélité, elle se reconnaît par une stabilité spirituelle. On est stable. Encore une fois, on a besoin de stabilité. Un coup en haut, un coup en bas. De la stabilité. Et toujours en progression. La fidélité se reconnaît avec une constance dans les choix et dans les valeurs, dans tout ce que nous faisons. Il faut que nos choix soient en adéquation avec la volonté toujours de Dieu. Alors quand on est fidèle, il y a une rémunération pour la fidélité. Et béni soit Dieu qui rémunère la fidélité. Alors quand il rémunère, pas comme peut-être on pourrait le penser. Être fidèle n'est pas un exploit, mais une réponse juste envers celui qui nous a rachetés. Alléluia. Regardez la rémunération que le Seigneur nous donne pour les hommes et les femmes fidèles. Proverbe 28, verset 20. Un homme, on peut dire une femme, hein, genre humain, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alors j'attends que ça fasse son chemin. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alors s'il y a une contradiction. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni, sous-entendu, avec un mauvais état de cœur. Mais un homme fidèle est comblé de bénédictions. Seigneur, garde-nous dans la fidélité. Garde-nous toujours dans tes voies, alléluia, parce qu'il y a des obstacles à la fidélité, évidemment, c'est le manque de foi, le découragement, les peurs de l'avenir, le manque d'intimité avec Jésus. Est-ce que vous savez que ça se reconnaît dans les discussions quand quelqu'un n'a pas cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ? On peut essayer de cacher, hein, ça se voit, manque de profondeur. Je conclue avec un encouragement à cette fidélité. Vous savez que dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est Jésus qui va visiter certaines églises. Et donc, il a un message à apporter à ces églises. Et là, notamment, dans une de ces églises, donc Apocalypse 2, verset 10, le Seigneur montre jusqu'où on doit être fidèle, chacun d'entre nous. Regardez, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Regardez l'encouragement. Sois fidèle. Jusqu'où? Alors, personne ne le dit. Voilà, on a dit qu'on n'était pas superstitieux. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Qui veut la couronne de vie? Alors, sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ça, en fait, hein, l'exhortation. Fidèle jusqu'au bout. Et puis, dernier verset, Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et qu'il est sur la table de ton cœur. Alléluia. Que Dieu fasse encore. Merci. Alors, c'est un encouragement, hein. Merci pour chacun d'entre vous, parce que vous avez compris ce principe-là, à la fidélité. Pour vous, c'était un rappel. Pour d'autres, une orientation également. Peut-être pour quelqu'un d'autre également, de se reprendre à être fidèle, fidèle au Seigneur. Si on est fidèle au Seigneur, le reste va suivre. Fidèle à son Église, fidèle les uns vis-à-vis des autres. Et merci Seigneur, parce qu'il veut le faire avec chacun d'entre nous. Alléluia. À lui seul, soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour, Seigneur, ce thème que nous venons de partager qui est tellement important. Oui, je le déclare, tu es fidèle. Alléluia. Fidèle en tout temps, Seigneur, en toutes conditions. Seigneur, toi, tu ne changes pas, tu restes le même. Seigneur, je te remercie d'encourager peut-être quelqu'un qui en avait besoin ce matin. Seigneur, mon Dieu, à la fidélité encore, à rester attaché, Seigneur, mon Dieu, à ta personne, Seigneur, parce que notre salut est en toi. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour leur vie. Merci pour leur famille, Seigneur, mon Dieu, que eux-mêmes se retrouver fidèles, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses te servir d'eux, Seigneur. Même dans des sphères difficiles, on l'a vu au travers d'exemples d'hommes et de femmes. Seigneur, ils ont tenu bon. Alors c'est possible en toi, Seigneur. Pas meilleurs que nous, ils sont comme nous. Mais ils ont compris certains principes. Seigneur, que peut-être une seule personne ce matin puisse comprendre la réalité, Seigneur, l'importance de la fidélité à toi seul. Nous voulons donner toute la gloire. Merci, notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.